bonjour à tout le monde. Après 68, ce que les syndicats appelaient l'insubordination des travailleurs est un phénomène récurrent. Elle est partie prenante d'un processus de radicalisation d'un certain nombre d'acteurs et d'actrices sociaux qui tissent entre eux des points de convergence. Ouvriers, ouvrières, lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes, paysans, paysannes, jeunes, femmes, immigrés, se retrouvent épisodiquement donc au cours des conflits qui jalonnent la séquence historique. Comme tout le monde le sait, le bassin stéphanois est un territoire d'ancienne industrialisation et le printemps 73 que je vais étudier plus précisément s'ancre dans ce contexte général donc des années de contestation post-68. En effet, de mars à mai 73, on voit dans le bassin stéphanois et à Saint-Étienne en particulier des grèves et occupations d'usines métallurgiques, un mouvement lycéen et un mouvement étudiant, une grève de la faim des travailleurs immigrés pour les papiers et une lutte organisée pour l'avortement, à tel point qu'on pourrait qualifier le printemps 73 de 68 stéphanois du fait de cette diversité de mobilisation. Bien sûr, cette boutade métaphorique est un peu provocante. J'avais mis un point d'interrogation quand même au titre de ma communication qui n'est pas dans le programme. Donc remettez, s'il vous plaît, le point d'interrogation. Donc n'est pas complètement justifié. D'abord parce qu'il y a bel et bien eu un 68 stéphanois. J'ai identifié 4 formes paradoxales et spécifiques par rapport à la situation nationale. Alors cette comparaison, je l'ai faite à partir des archives que j'ai consultées sur le plan national et ailleurs. Et aussi, je vous le signale, sur le site des archives municipales de Saint-Étienne, il y a un très beau récit de la période sur mai-juin 68. Alors, quelles sont ces quatre formes paradoxales, on peut dire spécifiques à Saint-Étienne, en mai-juin 68? Premièrement, le 6 mai 68, l'AGES, qui est la filiale locale de l'UNEF, tenue par des membres de l'Union des étudiants communistes, refuse de relayer l'appel de l'UNEF nationale à faire grève et à manifester contre la répression policière. Mais le lendemain, les étudiants réunis en AG votent la grève, désavouant ainsi leur direction syndicale. Deuxièmement, le 13 mai 68, après la plus grande manifestation de rue à la Libération qu'il y a eu à Saint-Étienne, le discours prononcé au nom de tous les syndicats par le secrétaire de la FEN a des accents révolutionnaires à l'encontre des positions de la CGT largement majoritaire dans le bassin. Troisième paradoxe, la reprise du travail des usines métallurgiques est tardive par rapport à la situation nationale et entre autres par rapport à l'appel de la Fédération CGT de la métallurgie qui avait appelé à reprendre le travail le 10 juin, premier jour de la campagne électorale. Elle se fait dans la Loire entre le 14 juin et le 26 juin. Enfin, dernière spécificité d'ordre politique, mais qu'il ne faut pas négliger, il n'y a aucun changement après les élections, contrairement à ce qui s'est passé ailleurs. Le député maire de Saint-Étienne, le centriste Michel Durafour, pas encore ministre du Travail, est réélu et il avait ouvert les cantines scolaires aux enfants des grévistes et avait salué la modération des comités de grève. Lucienne Wirth est aussi réélu et, contrairement à ce qui n'a pas été dit dans les hommages funèbres récents, à la différence de sa position extrémiste en 1958, il est relativement modéré en 68, puisque, par exemple, il ne fait pas appel à la création d'un CDR local, contrairement à ce qui s'est fait, donc, à la différence de Lyon, Marseille ou dans les villes du nord de la France. Donc voilà, il y a bien eu un 68 stéphanois, je rassure tout le monde, et particulièrement ceux qui y étaient, avec ses caractères originaux. Mais examiner la conjoncture de 73 à l'aune de 68, c'est simplement montrer qu'il y a en 73 une co-construction des luttes dans des secteurs différents, parfois intersectionnels, alors même que, événement symbolique de la crise économique et sociale locale, le dernier puits de mine stéphanois, le puits Couriot, ferme 10 ans après la grande grève, en apparence victorieuse, de 1963. Cependant, ce que je vais essayer de démontrer, c'est ce que nous avons appelé avec Xavier Vignat les rencontres improbables, caractéristiques de ces années 68, et qui sont prônées ici par les dirigeants de l'UDCFDT, dont on a parlé tout à l'heure, je vais les citer. La convergence des luttes des lycéens et étudiants avec les travailleurs contre le système capitaliste, fin de citation. Donc, militants de la CFDT, du PSU et de différents groupes d'extrême gauche. Mon étude s'appuie donc sur les archives nationales, rapports des préfets, des renseignements généraux, des dossiers de la BDIC dans le fonds Mémoire de 68, avec donc les papiers des cahiers de mai dont une équipe a suivi la grève à Peugeot et qui a fait 4 cahiers très fournis sur le récit heure par heure de cette grève. Les papiers Bouziri sur la grève des travailleurs immigrés, le fonds de l'avocat De Felice qui a défendu les lycéens. Ainsi que sur la presse nationale et la presse locale, et je confirmerai ce qui a été dit tout à l'heure, on trouve énormément de choses dans la tribune Le Progrès de l'époque, où tous les communiqués sont répercutés. La tribune Le Progrès diffusait alors à 93 000 exemplaires, ce qui veut dire 2 ou 3 fois plus de lecteurs. Hein. Donc ça veut dire aussi quelque chose sur comment circulait l'information. Alors, il me reste combien ? 10 minutes, même pas ? Bon, alors je vais aller vite. Donc d'abord, il y a une grève des lycéens et des étudiants. Donc cette grève, c'est contre la loi Debré qui réformait le service militaire en supprimant les sursis. Elle touche Saint-Étienne très tôt, le 7 mars. Elle a commencé le 6 mars à Lille, donc vous voyez, 2 jours après seulement. Le mouvement prend très vite la forme qu'il a ailleurs, c'est-à-dire ça débute par les lycées techniques. Claude Lebois à Saint-Chamond, Jacob Holzer Firmini, la Métard à Saint-Étienne. Le 22 mars, date symbolique, 5000 lycéens sont dans la rue contre la loi Debré. Les étudiants sont aussi en grève, suppression du DEUG, etc. Et la grève continue plus longuement avec le groupe qui s'appelle Ceux du Technique, avec un mot d'ordre, le CET, c'est déjà l'usine. Donc, le peuple lycéen, comme l'appelait Vincent, est dans la rue en 73. Et le contexte stéphanois est semblable à la situation nationale. Rivalité entre l'UNCAL et les comités de lutte lycéens pour se battre sur les formes et directions du mouvement. Je vous passe le détail. Mais avec certaines formes spécifiques qu'il faut citer. Les contre-cours dans la rue des élèves des classes préparatoires en direction de la population et les débats devant les portes des usines et sur les marchés. Donc il y a un lien construit par un petit nombre de lycéens, mais quand même, avec le comité de soutien à la grève de la faim des travailleurs immigrés pour les papiers. Je passerai, c'est mon deuxième point. Grève de la faim des travailleurs immigrés, donc, c'est une résistance aux premières mesures d'expulsion déjà prises à l'automne 72 avec l'application des circulaires Marcelin Fontanet exigeant contrat de travail et logement pour obtenir un titre de séjour. Ces grèves de la faim débutent à Valence et elles se répandent en France, Lille, Montpellier, Marseille, Nîmes, Perpignan, Strasbourg, Mulhouse, Nice, Toulon, Lyon, Saint-Étienne, un peu tardivement par rapport à tout cela, en avril. Alors, il y a grève de la faim en l'église Saint-Edmond et cet appel est soutenu par un comité de soutien hétéroclite constitué par la CFDT, Échange et Promotion, la LICRA, le PSU, la Ligue communiste et les comités de lutte. Une manifestation, le préfet refuse une audience à ce comité, ne veut recevoir que certains membres sérieux de ce comité, sérieux je mets des guillemets, à ce comité de lutte. Hein. Et donc ça dure beaucoup. Les grévistes de la faim sont devenus 51. Ce sont essentiellement des, je cite, travailleurs tunisiens. Il y a un Marocain, un Algérien. Ils sont installés donc à l'église Saint-Edmond. Et une nouvelle manifestation le 27 avril est un peu intéressante. Elle réunit 600 personnes de la place du peuple à la place Marengo. Alors, quand on est stéphanoise, et je suis stéphanoise, si vous voulez, évidemment, on ne se rend pas compte, mais quand on part un peu à l'extérieur, on se rend compte que les places sont assez près et que les trajets sont assez identiques. Hein. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, deux mots d'ordre. Un mot d'ordre lycéen, chaud, 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 le printemps sera chaud. Et un autre mot d'ordre qui m'intéresse, Peugeot, Jacques Mar, immigré, même combat. Donc, si vous voulez, on fait ici le lien avec les autres conflits, au moins dans les mots d'ordre. Ça se passe un peu vigoureusement. Les CRS interviennent violemment parce que certains membres de la manifestation avaient monté une banderole sur la terrasse de la préfecture. Donc, le responsable CFDT, Pierre Héritier, est blessé. Huguette Bouchardeau est arrêtée. Elle était au PSU local à l'époque. Le mouvement traîne en longueur et pour une fois, eh bien, le changement est venu de Raymond Marcelin parce qu'il est un peu embêté avec ses grèves de la faim dans un premier temps. Et donc, il fait une circulaire le 18 mai 73 au préfet qui conseille au préfet de discuter avec les associations et les prêtres qui soutiennent les grévistes. Donc, le préfet de la Loire, qui par ailleurs s'est montré parfois plus conciliant sur d'autres terrains, accepte de recevoir le comité de soutien. La grève donc, a traîné en longueur par rapport à certaines grèves de la faim. Et les papiers sont accordés à titre provisoire, mais ces titres provisoires deviendront définitifs, en fait. Voilà. Donc, grève popularisée par les comités de soutien, par le comité de soutien, la CFDT, des collectifs militants. Ils ont poser la question de l'immigration début 73, à un moment où elle n'était pas perceptible aux yeux de tous, puis c'est plutôt dans l'été que c'est devenu perceptible. Dernière chose, non, oui presque, les usines occupées. Alors, dans les usines occupées, à ce moment-là, on l'a dit, de jeunes ouvriers déclenchent des mouvements qui bloquent ou ralentissent la production de manière imprévue. On les appelle grève sauvage, grève thrombose, grève bouchon. On pourrait décortiquer ces mots précisément. Les directions d'entreprise font appel aux tribunaux pour obtenir des jugements en référé, y compris contre des délégués syndicaux, pour faire expulser donc, les occupants. Alors, c'est le cas à Cégédure, par exemple, chez Jacquemart, et à Peugeot-Saint-Étienne, dont je vais vous parler un peu plus longuement. D'abord parce que le conflit a été long, 44 jours de grève. Il a polarisé l'attention sur le plan local et aussi sur le plan national. Il a polarisé l'attention aussi dans l'ensemble du bassin stéphanois et provoqué un mouvement de solidarité sans précédent. Alors, quelques informations. L'usine Peugeot, c'est une grosse boîte, hein, 1127 salariés, 191 mensuels, cadre maîtrise employé, 836 ouvriers payés à l'heure. Je parle bien sûr de la situation en 73. Le 4 avril 73, donc, est déposé à la direction un cahier de revendications qui a été élaboré atelier par atelier à partir des presses, de l'atelier des presses et de la tôlerie, qui sont essentiellement des ateliers d'OS, qui a été approuvé, c'était tout à fait impressionnant, par l'atelier d'usinage, qui lui est un atelier d'ouvriers professionnels. D'abord, qu'est-ce qu'il demandait ? Diminution des cadences et obtenir 1500 francs mensuels garantis pour tous, pour 40 heures de travail. Je crois que c'était à 43 heures à ce moment-là. Et une prime de fin d'année égale pour tous, des vêtements de travail. Pourquoi cette manière de procéder, atelier par atelier jusqu'à la direction ? Parce qu'en 1972, il y avait une grève de soudeurs qui avaient fait grève tout seul, qui avaient fait pareil, qui avaient fait un cahier de revendication dans leur atelier. Ils avaient fait grève tout seul et les autres n'avaient pas suivi. Donc là, ils sont allés beaucoup plus lentement, si je peux dire. Et quand les cahiers de revendication... Alors pourquoi les OP ? Parce que c'est intéressant. Pourquoi les OP se mettent du côté des OS pour en fait demander des revendications qui était égalité pour tous, alors qu'eux étaient plus payés que les OS, eh bien, c'est parce qu'on avait créé des règleurs et que les règleurs qui étaient dans les ateliers d'ouvriers professionnels, si vous voulez, bloquaient la progression donc des salaires et des OP. Donc, c'est la raison pour laquelle les OP se mettent sur leurs propres revendications. Là, les cahiers de revendications sont présentés aux syndicats et aux trois syndicats présents dans la boîte et adoptés lors d'une assemblée générale. L'occupation de l'usine est votée. Alors, face à cela, la direction a une attitude très ferme, choisit l'épreuve de force. Elle refuse de prendre en compte les cahiers de revendications. Elle cite 8 délégués en référé. Le 7 avril, le tribunal ordonne l'évacuation des locaux, mais le préfet refuse de faire appliquer la décision par les forces de l'ordre. À ce moment-là, la direction fait un plan B avec la direction centrale de Peugeot. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la production est déjà organisée en flux tendu en 73, et déjà la production des autres entreprises Peugeot diminue, enfin, il y a 50 unités de moins, par exemple, sur les 304 et les 504, si vous voulez, du fait de cette organisation en flux tendu, parce qu'il y a des pièces fabriquées par Saint-Étienne qui n'arrivent plus. Et donc, voilà. Et donc, le 10 avril, 7 ouvriers sont licenciés pour entrave à la liberté du travail. Et le 11 avril, le licenciement de 4 délégués et demander au comité d'entreprise. Et la direction de Peugeot a préparé une intervention brutale d'un groupe d'hommes armés la nuit, qui était organisée par le général Février, responsable à Peugeot des opérations spéciales, qui a mobilisé dans ses différentes usines un groupe de 53 hommes ouvriers sûrs, dont un certain nombre d'immigrés. Par exemple, un des grièvement blessés est un Portugais venu de Sochaux, dans ce groupe de 53, comme quoi les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Hein. Et puis, on y a ajouté des membres recrutés dans une société d'intérim, anciens parents et anciens de l'OAS, au total 70 hommes. Ils entrent par l'usine des Bennes-Marelles, qui va resservir deux fois dans le conflit. Ils passent par les Bennes-Marelles et la nuit, ils délogent vigoureusement, violemment, le piquet de grève qui était dans l'usine. Alors... C'est au petit matin. Il y avait des ouvriers non grévistes, 200, qui, quand ils voient les bagarres qui sont faites la nuit, refusent de rentrer. Bien que non grévistes, ils refusent de rentrer, vu la façon dont s'était comporté ce groupe qu'on a appelé les Katangais. Alors, je n'ai pas le temps, mais je voulais m'interroger sur d'où venait le Katangais, parce que Katangais, c'était une espèce de service d'ordre musclé qui avait été la Sorbonne en mai-juin 68. Mais c'était surtout, je pense, le nom donné aux mercenaires du Congo qui avait été... donc, on avait donné en juin 68, mais bon, de toute façon, on n'a pas le temps. Et donc... là, une foule d'ouvriers venus de tout le bassin va constamment être présente devant l'usine, voulant aller récupérer les gens armés qui sont dans l'usine, les mercenaires armés. Et les délégués syndicaux s'efforcent de s'interposer entre les CRS et la foule. Vous pouvez voir sur Internet un reportage photo où on voit clairement tous les moments de ceci. Voilà. Alors, combien d'ouvriers sont venus ? Les chiffres sont variables, entre 15 000 et 20 000. Mais ce chiffre est complètement aléatoire parce qu'il y a une circulation incessante toute la journée. Des gens venant de Londaine, du J, etc. C'était la plus grosse manifestation, on a dit, depuis très longtemps. Les heurts ont été violents, il y a eu des bagarres très violentes. Le Portugais venant de Sochaux grièvement blessé. Et pourquoi ? Parce que des jeunes ouvriers sont aussi repassés par les Benmarais, eux aussi, et ils ont pris les Katangais, enfin ceux qu'on appelait les Katangais, par derrière. Alors, je dois finir, donc voilà. Ces gens-là, connus de la police, vont partir dans les fourgons de police un peu amochés. Et le 10, ils sont amnistiés après l'élection de Giscard d'Estaing. Les négociations sont très longues. J'ai 2 minutes ou pas ? Oui. Alors, les négociations sont très longues. La direction n'arrête pas de donner des préalables. Et finalement, elles aboutissent. Dernier piquet de grève est mis en place le 18 mai 73 à 4h du matin. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? La déception est grande. Il y a une assemblée générale où la presse n'a pas été invitée, donc il y a des protestations dans la tribune Le Progrès. Mais ils savent quand même ce qui s'est passé. Et donc, les acquis sont minces, sauf une chose sur laquelle ils ne voulaient absolument pas bouger, c'est les sanctions. Donc il n'y a pas de licenciement, il n'y a pas de mise à pied, pas de mutation. Et les procédures engagées devant les prud'hommes doivent aller à leur terme. Le responsable CGT, M. Fournier, dit « La direction de Peugeot n'a pas pu imposer sa loi. Ce sont les tribunaux de la République qui jugeront. » Salaire et paiement des jours de grève, c'est une question très difficile. Très peu a été obtenu. Je ne vous donne pas le détail, mais bon, ce sur quoi les grévistes ont discuté très longuement, parce que ça, ils ne voulaient pas l'accepter, c'est qu'on ne leur paye pas le 1er mai. Le 1er mai, c'était un jour chômé, férié, et là-dessus, ça a chopé vraiment. Enfin, le bilan dressé par les responsables syndicaux, on connaît, on voit tout, alors je n'ai pas le temps de vous les lire, hein, mais bon, les trois responsables syndicaux, avec des nuances, sont d'accord. Il est plutôt pessimiste, en disant « oui, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, mais il faut reprendre ». La reprise se fait dans l'unité. Il y a eu 12 voix contre, simplement, je précise, hein, contre l'accord. La reprise se fait dans l'unité le lendemain, derrière une banderole commune intersyndicale. Et tous les textes insistent sur cette unité qui a été préservée tant bien que mal au cours du conflit. Alors, je conclue. Donc, les répertoires d'action utilisés au printemps 73 sont conformes au régime de conflictualité des années 68 du fait des revendications mises en avant. Remise en cause des cadences, absence de qualification, voire déqualification pour les OS et les OP, avec une territorialisation du conflit sur l'atelier, sur le collectif primaire de travail. En plein conflit Peugeot, je prends quand même une seconde pour dire ça, la presse publie un sondage selon lequel 84% de la population de la région est favorable à un assouplissement de la législation sur l'avortement et une majorité se prononce pour l'extension de la pratique de la contraception. Il y avait une spécificité stéphanoise, c'est le GLACS, groupe pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Pourquoi spécificité ? Parce qu'il était animé par des médecins, dont un certain nombre étaient proches du Parti communiste, par une responsable du PSU local, Huguette Bouchardot, alors professeur de philosophie, et par des membres de la Ligue communiste. Donc vous voyez un attelage surprenant dans ces années 68. Si ce combat n'est pas reliées au monde ouvrier organisé, de nombreuses ouvrières avaient recours au GLACS pour avorter. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on relève la même configuration militante que dans les comités de soutien des différents mouvements. Il faut préciser que les OS immigrés de chez Peugeot, qui étaient la plupart algériens et pour un grand nombre dans des mariages mixtes, avec des Françaises donc, n'ont pas soutenu particulièrement les grévistes de la faim tunisiens. Mais il y a bien eu au printemps 73 ce que j'appelle co-construction des luttes, mais il ne s'agit pas d'une convergence, comme l'écrivait la CFDT en 73, mais co-construction à l'intersection de plusieurs conflits qui sont le fait des comités de soutien, qui sont faits de militants syndicaux, essentiellement de la CFDT, de militants politiques du PSU, des militants des diverses organisations d'extrême gauche, et s'il faut souligner, avec une dimension générationnelle non négligeable, ce que Julie Pagis appelle la disponibilité biographique. Les jeunes sont omniprésents dans tous ces secteurs. Alors s'il n'est pas le 68 stéphanois, le printemps 73 appartient donc bien par son régime de contestation aux années 68. Merci.